Il est 4h en temps universel, 6h ici à Paris. Une nouvelle demi-heure d'actualité avec vous, Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
Et ça commence avec le journal à la une. Les bureaux de vote sont en train d'ouvrir en Roumanie.
Encore, pourrait-on dire, parce que pour la deuxième fois en 5 mois, c'est pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le précédent avait été annulé, alors les électeurs remettent ça, mais pas avec les mêmes noms sur les bulletins. L'armée israélienne déploie ses soldats dans le sud de la Syrie. Elle dit vouloir y protéger les villages druzes après des jours d'affrontements meurtriers entre cette minorité et des groupes armés liés au pouvoir. On sera aussi au Kurdistan irakien où un forum était organisé hier à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le Yémen était à l'honneur. Impunité, corruption, cupidité, laxisme et paresse, les fléaux contre lesquels Brice Oligui Nguema dit vouloir lutter. Il a prêté serment hier à la tête du Gabon. Direction ensuite la Belgique où le plus ancien détenu du pays demande à être euthanasié. Et puis ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Premier film du réalisateur roumain Bogdan Mureșanu, une plongée dans les dernières heures du régime Ceaușescu, on vous en parle à la fin du journal. C'est une sorte de deuxième premier tour qui se tient aujourd'hui en Roumanie, à premier tour de l'élection présidentielle, sauf que c'est la deuxième fois en quelques mois, puisque les électeurs avaient déjà été appelés aux urnes fin novembre. Calin Dioudiarscu était arrivé en tête, grosse surprise, avant une surprise encore plus grosse, scrutin annulé pour des soupçons d'ingérence russe. Il n'a pas eu le droit de se représenter cette fois. 11 candidats en lice ce dimanche et les cartes sont rebattues. Muriel Paradon.
Calin Georgescu disqualifié, c'est Georges Simion qui est désormais favori pour se placer en tête de ce premier tour de la présidentielle. Les voix de l'extrême droite pourraient se reporter sur son nom. Cet ultranationaliste âgé de 38 ans, fondateur de l'Alliance pour l'unité des Roumains, se pose en candidat anti-élite. Pourfendeur des politiques de l'Union européenne, grand admirateur de Donald Trump, il est en revanche critique envers Vladimir Poutine, tout en s'opposant au soutien militaire à l'Ukraine. Face à Georges Simion, 3 candidats sérieux parmi les 11 en lice, Victor Ponta, ancien Premier ministre social-démocrate, chassé du pouvoir en 2015 après de grandes manifestations anticorruption. Il y a aussi Nicu Zordan, maire de Bucarest. Technocrate respecté, il veut incarner un renouveau pro-européen. Enfin, Crin Antonescu, figure également pro-européenne, il représente la continuité. S'il peut miser sur sa longue expérience politique, il est aussi l'unique candidat des partis au pouvoir, à l'image ternie par des années de gouvernance.
Et les bureaux de vote sont en train d'ouvrir dans le pays. Ils fermeront à 18h en temps universel. À 6 deuxième tours, il y a, ce sera dans 2 semaines. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie dénonce des violations continues et croissantes de la souveraineté de la Syrie. Le coupable, Israël, qui a frappé des dizaines de cibles dans le pays ces derniers jours et qui a annoncé hier avoir déployé son armée dans le sud pour, dit-elle, protéger les villages druzes. Depuis le début de la semaine, les affrontements entre cette minorité issue de l'islam chiite et des groupes armés liés au pouvoir syrien ont fait plus d'une centaine de morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors va-t-on vers une escalade entre Israël et Damas? On a posé la question à Valentina Napolitano, chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement.
C'est une évolution dangereuse, mais il faut savoir aussi que la Syrie n'a pas du tout de moyens militaires pour rentrer dans une éventuelle guerre avec Israël. Je pense là qu'Israël essaye de s'imposer comme un acteur pour pouvoir ensuite négocier derrière une position de force. Il y a une volonté d'éradiquer complètement la présence iranienne dans la région. Et puis, il y a aussi une volonté d'amener la Syrie à la normalisation. On parle beaucoup dans ces jours d'une possible normalisation des relations de la Syrie avec Israël. Mais je ne pense pas qu'il y aura une escalade militaire sur le terrain syrien.
Des propos recueillis par Elisa Robuchon. L'escalade militaire n'en finit pas, par contre, à Gaza, où les frappes israéliennes ont repris mi-mars après 2 mois de trêve. Et l'armée israélienne aurait rappelé des dizaines de milliers de réservistes pour élargir son offensive contre le Hamas dans l'enclave. Ce sont des médias israéliens qui l'affirment. Alors pas de confirmation du côté du Premier ministre, qui en revanche s'est montré moins silencieux hier soir vis-à-vis du Qatar, l'un des principaux médiateurs en vue d'une nouvelle trêve. Benjamin Netanyahou demande à l'émirat de cesser son double jeu et son double langage, laissant ainsi planer le doute sur l'avenir des négociations. Des déclarations incendiaires et contraires aux règles les plus élémentaires de la responsabilité politique et morale, a réagi le ministère qatarien des Affaires étrangères. Voix de femmes sans frontières, c'est le thème du forum organisé ce week-end à Erbil, au Kurdistan irakien, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée hier. L'ONG Journalisme et Humanitaire est parvenue à rassembler des femmes journalistes des quatre coins du Moyen-Orient. Et c'est le Yémen qui était à l'honneur, un pays ravagé par 11 années de guerre civile. Pourtant, le sujet est assez absent dans les médias locaux. Notre correspondant à Erbil, Lucas Lazo, a voulu comprendre pourquoi. Alors, en marge de ce forum, il a pu rencontrer une journaliste yéménite. Reportage.
Alors que les Nations Unies alertent régulièrement sur la situation humanitaire catastrophique au Yémen, où près de 19 millions de personnes sont dépendantes de l'aide internationale, très peu d'informations filtrent du pays. Pour la journaliste yéménite Wadad al-Badawi, les influences extérieures qui alimentent les tensions participent à brouiller l'information.
Le Yémen est une zone de conflit où la plupart des partis politiques impliqués sont liés à des pays étrangers. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les États-Unis. Or, l'ensemble des médias au Yémen sont contrôlés par ces partis.
Engagée depuis 2008, Wadad al-Badawi se bat pour une presse plus libre au Yémen, mais avec la guerre, le pluralisme médiatique est réduit à néant.
C'est cette situation qui porte atteinte à l'indépendance des médias au Yémen et qui participe à empêcher l'information de se diffuser à l'étranger. De nombreuses voix sont condamnées au silence.
De nombreuses voix, dont celles des femmes particulièrement vulnérables dans le conflit et auprès de qui cette journaliste se mobilise.
Au Yémen, les femmes n'ont aucun droit et ne sont pas représentées dans les médias. Comme journaliste s'intéressant aux problématiques de genre, je suis accusée par les partis politiques de détruire la morale dans la société et de corrompre les mœurs.
Si la démission du Premier ministre hier à Aden dans le sud du pays suscite des espoirs d'ouverture, Wadad al-Badawi s'inquiète de l'escalade entre les États-Unis et les rebelles Houthis qui contrôlent le nord-ouest du pays. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Jamais une prestation de serment présidentielle n'avait eu le droit à autant de spectateurs au Gabon. Ils étaient près de 40 000 hier au stade d'Agonje à Akanda dans le nord de Libreville. Après sa victoire écrasante le mois dernier, après déjà 19 mois à la tête de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema a prêté officiellement serment et a pris les rênes du pays. Il les gardera pour les 7 prochaines années. Premier président de la 5e République, François Mazet.
Brice Clotaire-Oligui-Nguema n'avait sans doute pas besoin de la coupure d'électricité qui a frappé Libreville en pleine cérémonie pour rappeler que la reconstruction des infrastructures était une de ses promesses de campagne. Dans son premier discours de président de plein exercice, il a cité la diversification de l'économie, la lutte contre le chômage des jeunes et la transformation locale des ressources naturelles. Il a surtout promis de lutter contre certains fléaux, l'impunité, la corruption, la cupidité, le laxisme et la paresse. Quelques minutes plus tôt, cintré dans son smoking et son gilet croisé gris, il avait juré de respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, s'était vu remettre le collier présidentiel de grand maître des ordres nationaux et reçu les attributs traditionnels du pouvoir, dont une torche, un symbole de lumière, d'espoir et de responsabilité partagée, transmise à Mamadi Doumbouya, comme une suggestion au chef de la transition guinéenne d'organiser des élections dans son pays. Brice Clotaire-Oligui-Nguema a également détaillé le calendrier de mise en place des nouvelles institutions. Les élections législatives et locales auront lieu les 27 septembre et 11 octobre, suivies des sénatoriales. La transition prendra fin le 23 décembre à la prestation de serment de la nouvelle Cour constitutionnelle.
Précision de François Mazet. Au Togo aussi, Fornia Simbe a prêté serment hier, mais cette fois pas en tant que président de la République, pour la simple et bonne raison qu'il ne l'est plus. Il a été désigné président du Conseil des ministres, désormais plus haute fonction de l'exécutif, créée par la Constitution de mai 2024. Le poste de président de la République n'est plus qu'honorifique. Et c'est Jean-Lucien Kouassi Savidetove qui l'occupera. Cette réforme constitutionnelle est toujours vivement critiquée par une partie de l'opposition togolaise. Il est le plus ancien détenu en Belgique derrière les barreaux depuis 45 ans. Freddy Orion, condamné pour le meurtre d'une famille de 5 personnes et d'une commerçante, a fait une demande pour être euthanasié. C'est autorisé en Belgique, mais ce cas est évidemment très particulier. Il affirme à vouloir en finir à cause de souffrances psychologiques insupportables. Correspondance à Bruxelles de Laxmi Lota.
Cela fait 45 ans que Freddy Orion est emprisonné. Depuis les années 90, il introduit une demande de libération conditionnelle tous les ans, sans succès. En 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'État belge devait effectivement lui offrir une perspective de réinsertion. Aujourd'hui, désespéré par tous ces refus, à 77 ans, Freddy Orion demande l'euthanasie pour cause de souffrance psychologique insupportable. Mais la coprésidente de la commission de contrôle de l'euthanasie, Jacqueline Hermans, rappelle que la loi est très précise.
Il faut insister sur cette condition. Les souffrances doivent être causées par un problème médical. Sauf si l'on m'apporte la preuve que ce patient, ou plutôt que ce détenu, souffre d'une infection grave et incurable, il ne s'agit pas d'un cas qui peut entrer dans le cadre de la loi.
Souffrir parce qu'on est prisonnier ne constitue donc pas un argument valable. Le détenu va tout de même introduire sa demande. La Cour d'appel d'Anvers a confirmé en 2023 l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Freddy Orion devait être transféré dans une institution en vue d'une réinsertion, mais l'État belge s'est pourvu en cassation. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
On termine avec du cinéma et ce film sorti il y a quelques jours en France, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, c'est signé Bogdan Mouratchanou. Le réalisateur roumain propose cette question: à quoi ressemble un pays à quelques heures de la chute de son dictateur, Ceausescu en l'occurrence. Elisabeth Le Quéret a pu voir le film primé à la Mostra de Venise en septembre dernier.
Comme dans un chaudron en ébullition, ce nouvel an qui n'est jamais arrivé nous plonge dans la Roumanie de décembre 1989, 24 heures avant la chute du dictateur Ceausescu. On y suit les destins croisés de plusieurs personnages, un étudiant qui projette de s'enfuir à l'ouest, une vieille dame qui refuse de quitter sa maison, promise à la démolition, tandis que son fils policier sombre peu à peu dans la paranoïa, et une comédienne qui se voit forcée de chanter la gloire du régime. Format carré et caméra à l'épaule, Bogdan Mouratchanou capte l'atmosphère viciée de fin de règne via des détails du quotidien, les téléphones sur écoute, les délations entre voisins, la propagande omniprésente. Son film est une chronique de la peur au quotidien, racontée avec une précision chirurgicale et cet humour noir qui est la marque de fabrique du cinéma roumain, un témoignage précieux qui en dit plus que des heures d'archives.
Elisabeth Le Quéret du service culture de RFI, 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
On est ensemble pour une petite vingtaine de minutes encore. On va revenir sur cet exercice inédit de l'armée de l'air et de l'espace française. C'était il y a quelques jours avec un ordre inattendu, dispersion immédiate. On vous explique tout. On est aussi dans les Cévennes françaises à la rencontre d'un revenant, le cheval de Przewalski, déclaré éteint dans les années 70. Il ne l'est plus. Et c'est grâce au travail d'une association qu'on rencontre dans la chronique de la biodiversité. Et puis autre chronique à suivre, à vivre ailleurs, la chronique pour les expatriés. Mais d'abord direction la Colombie, où la saison des pluies a commencé le mois dernier, causant déjà de nombreux dégâts et faisant 2 morts à Medellín, où l'état d'urgence pour catastrophe naturelle a été déclaré. Mais ce pourrait n'être qu'un début. L'Institut météorologique du pays prévient: inondations, pluies intenses et destruction de routes et de maisons sont à attendre jusqu'à la fin du mois de juin. Un effet du réchauffement climatique évidemment, mais la faute aussi à la déforestation et à l'urbanisation sans contrôle. Reportage à Medellín de notre correspondante Najat Benrabah.
Ce bruit de la pluie est devenu le quotidien des habitants de l'arrondissement San Antonio de Prado de Medellín. Chaque année, les précipitations sont de plus en plus fortes. En ce début de la saison hivernale, les conséquences sont déjà visibles. Alejandro Castaño est agriculteur de père en fils. Ce quadragénaire est natif de San Antonio de Prado et il a été témoin de plusieurs inondations, dont la dernière en date au début du mois d'avril.
Les affluents de ruisseaux sont obstrués, bouchés à cause de l'abattage des arbres. Donc de nombreux bassins se retrouvent avec des sortes de barrages qui bloquent l'eau. La matière végétale s'accumule et ensuite se déverse partout et inonde les maisons qui sont proches des ruisseaux. C'était le cas dans le district d'Astilleros.
Sa voisine, Natalia Mesa, s'inquiète de la fissure qui traverse la route près de chez elle.
Regardez, quelqu'un a essayé de boucher le trou. Ici, on voit des débris et de la terre, mais comme les camions continuent de passer dessus, notamment les poids lourds, eh bien la fissure continue de se creuser. Le trou dans le sol est énorme, surtout qu'il se trouve sur une faille géologique. D'ailleurs, juste en face, avant, il y avait une très belle maison. La famille a dû être évacuée et la maison détruite.
Pour prévenir ces phénomènes, les pompiers de Medellín sont en train de cartographier le secteur. À l'aide d'un drone, deux pompiers scannent la montagne pour détecter les éventuelles fissures ou mouvements de plaques tectoniques d'une des zones inondées il y a quelques jours. Le capitaine Juan Guillermo Uzma, sous-commandant du corps des pompiers de Medellín.
Dans ce type de cas, il est avant tout question de glissement de terrain. C'est parce que ce sous-sol est devenu une sorte de nappe phréatique. Il pleut tellement que le terrain ne parvient plus à absorber l'eau. Du coup, l'eau commence à se déplacer vers le bas de la montagne à travers ses chemins sur le côté. Le cours d'eau augmente, ça peut se transformer en un barrage et finir par déborder. Avec les débris et blocs de rochers, ça se transforme en coulée de boue.
Pour faire face à ces phénomènes climatiques dits du Niño et de la Niña, les autorités utilisent un système d'alerte dit le CIATA. Carlos Quintero, directeur du département de gestion des risques et des catastrophes de Medellín.
Nous avons une surveillance en temps réel via le satellite. Mais même si cela aide, il est parfois difficile d'avoir des prévisions précises, notamment concernant la quantité de précipitations attendues. Le sujet des catastrophes naturelles est un sujet ambigu, complexe. Tout ce que nous pouvons établir, ce sont des scénarios de risque d'origine naturelle.
D'après l'IDEAM, l'Institut de météorologie colombien, la saison de fortes pluies en Colombie s'étendra jusqu'à la fin juin. Dans son rapport, l'organisme prévoit des précipitations supérieures de 20 à 50% à la normale au cours de mai. Najed Ben Rabah, Medellin, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. C'était le 22 avril dernier. En France, l'armée de l'air et de l'espace procédait à un exercice inédit, la dispersion d'une escadre de chasse. L'objectif, notamment, c'était de tester la réactivité face à une menace soudaine. Explication dans la chronique Défense, Franck Alexandre.
Sur la base aérienne 133 Nancy-Auchet, siège de la 3e escadre de chasse, personne n'avait été prévenu. Soudainement, en début de journée, le général Pierre Godillère, patron de l'aviation de chasse, a donné le go de l'opération Jade pour jaillissement d'escadre.
Ils ont été prévenus à 8h30 quand j'ai donné l'ordre de la dispersion. Donc vous aviez des pilotes dans les avions qui ont mis en route, qui n'avaient pas encore leur terrain de destination et qui l'ont appris au roulage lorsqu'ils quittaient la hangarette.
Destination Orléans, Salon de Provence, Rochefort, Luxeuil. Et à l'exception de cette dernière, les 25 Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse ont pris le large par petits groupes de 5 appareils vers des pistes qui d'ordinaire n'accueillent jamais ce type d'avion.
C'est pas banal parce que c'est quelque chose qui nous permet de se plonger dans un contexte qui demande de plus en plus d'agilité, de rusticité, d'adaptation. Attention, vous vous doutez bien que derrière, il faut aussi déployer des mécaniciens. Et le fait de déployer ces avions de chasse sur des bases aériennes qui ne sont pas habitués à une activité quotidienne d'avion de chasse, évidemment que ça faisait partie de l'exercice.
Préparation à la guerre de haute intensité oblige, la dispersion d'avions de chasse s'inspire directement du conflit ukrainien. L'armée de l'air renoue avec une pratique courante, la dispersion des appareils stratégiques sur tous les terrains possibles. Pierre Godillère.
La survivabilité d'une capacité militaire passe également par sa capacité à se reconfigurer. Il est évident qu'on peut très bien être amené à envisager cette activité à partir de terrains disponibles, donc civils. Bien sûr que c'est quelque chose qui intéresse grandement le commandement.
Trois jours durant, les pilotes de la 3e escadre de chasse ont donc opéré depuis 5 bases différentes. Et dans ce contexte inhabituel, ils sont même parvenus à augmenter significativement le rythme des missions.
J'ai eu à peu près, sur les 3 jours, 30% de plus d'activité que ce que nous pourrions réaliser lors d'une activité quotidienne à partir d'une base aérienne de chasse. Le réseau des bases aériennes a parfaitement fonctionné, alors que nous mettons à la fois les équipages et les mécaniciens sous tension.
Après plusieurs décennies d'engagement sur des théâtres d'opérations où la supériorité aérienne était acquise, l'aviation de chasse se prépare à des conflits plus durs. Très prochainement, une autre escadre de chasse sera elle aussi amenée à se disperser sans préavis.
La chronique défense de Franck Alexandre. Autre chronique sur RFI, celle de la biodiversité. Et ce matin, on vous repropose de découvrir cet animal qui renaît de ses cendres. Alors non, rien à voir avec le phénix, c'est moins mythologique que ça, mais quand même, c'est bien l'histoire d'une résurrection. celle du cheval de Przewalski, le plus ancien cheval sauvage au monde, une espèce déclarée éteinte dans les années 70, mais réintroduite en Mongolie, sa terre d'origine, grâce au travail d'une association située, elle, dans les Cévennes françaises. Florent Guignard s'y était rendu. Revoici son reportage.
C'est un petit peu au petit bonheur la chance de les croiser quand on vient ici.
Oui, on peut dire qu'on a de la chance en ce matin du mois d'août, en compagnie de Pauline Joanneau et Julie Morisson de l'association TAC.
TAC, ça veut dire cheval sauvage en mongol.
Devant nous, à une dizaine de mètres, deux représentants de la plus ancienne espèce de cheval sauvage au monde, au gabarit proche du poney, robe beige, le bas des pattes zébré. Deux chevaux de Przewalski que nous présente Julie Morisson.
Gizmo et Rouquet, deux étalons célibataires qui sont juste de l'autre côté de la clôture, en position de repos, donc en tête à queue pour que la queue de l'un chasse les mouches des yeux de l'autre. Vous ne sentez pas une différence ici qu'il n'y avait pas tout à l'heure quand on marchait ? Il y a du vent, il n'y a pas d'arbres, donc quand il fait très chaud, le cheval de Przewalski va chercher le courant d'air.
En plein mois d'août, il fait chaud sur le Cosméjan, ce plateau vallonné du sud du massif central, à 800 mètres d'altitude, chaud l'été et froid l'hiver, comme en Mongolie, la terre d'origine du cheval de Przewalski. Ici, 40 chevaux vivent en semi-liberté, sans contact avec l'humain, dans un paysage semblable aux steppes de Mongolie, des herbes hautes, jaunies par le soleil, de rares arbustes et des cailloux. Nous sommes dans la steppe cévenole, Pauline Joanneau.
Très aride, très nue, et en fait, on a ce qu'on appelle des pelouses calcaires, on est sur le Cosméjan. Donc, le sol calcaire ne permet pas à l'eau de rester en surface. Tout s'écoule, ce qui fait que donc, la végétation est très rase, très sèche. Alors attendez, je vais juste re-regarder, ils ont peut-être rebougé depuis.
C'est en 1993 que les premiers chevaux de Przewalski sont arrivés sur le Kos en provenance de zoos, parce qu'à l'état sauvage, le cheval sauvage avait complètement disparu. Un dernier individu aperçu en 69 dans le désert de Gobi.
Lorsque les Européens sont allés chercher des poulains de Przewalski en milieu naturel pour les mettre en zoo au début des années 1900, la stratégie à l'époque était d'abattre la totalité des adultes accompagnant les poulains, hein. Forcément c'est une espèce qui sait très bien se défendre face à un stress, elle s'organise socialement pour faire face aux prédateurs.
Mais moi qui ne suis pas un prédateur, je peux aller le caresser ?
Pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que socialement ils vont tellement s'organiser de manière puissante que même si vous ne connaissez pas le comportement des chevaux, vous allez vous douter qu'il faut arrêter de se rapprocher.
En 2004, l'association TAC a envoyé en Mongolie une vingtaine de ses chevaux, un programme de réintroduction réussi, Julie Morisson.
Ces chevaux arrivent à se reproduire, à survivre et à continuer de se défendre face aux attaques de loups, par exemple. Donc franchement, c'est plutôt prometteur.
Officiellement éteint dans les années 70, le cheval de Przewalski n'est aujourd'hui plus qu'une espèce en danger, une espèce ressuscitée.
C'est dans ta nature, avec Florent Guignard. Comme chaque week-end sur RFI, on s'intéresse à ces Françaises et Français qui ont fait le choix de s'expatrier. Une expérience, oui, mais un défi aussi parfois. Alors c'est pour les aider à bien se préparer que la plateforme collaborative Expat Village a vu le jour il y a 5 ans maintenant. On la doit, cette plateforme, à Florence Chabert d'hier, née au Sri Lanka et adoptée par une famille franco-italienne. Elle a le profil, on pourrait difficilement dire le contraire, puisqu'elle a grandi en France, mais elle a vécu aussi dans 7 pays, sur 4 continents différents. Elle parle 5 langues, mais c'est évidemment en français qu'elle nous explique comment lui est venue l'idée d'Expat Village. Elle répond à Corinne Manjou.
Expat Village permet de retrouver en ligne les acteurs de l'expatriation. J'ai quand même beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que quand on bougeait d'un pays à l'autre, il n'était pas forcément facile de trouver des spécialistes francophones. Par conséquent, Expat Village, on a des services, que ça aille de la psychologie ou conseiller de gestion en patrimoine. On a aussi pas mal d'applications qui peuvent en fait faciliter la vie des Français à l'étranger. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, et de par mon métier donc de formatrice et coach interculturelle, c'est d'accompagner les jeunes à forger leur identité dans cette aventure qu'est l'expatriation, pouvoir vraiment leur trouver des clés, peu importe le pays dans lequel ils se trouvent.
Quels sont les services que vous proposez ?
Alors, on propose vraiment un accompagnement sur mesure parce que pour nous, il est primordial d'aider ces jeunes à construire leur identité et à partir découvrir le monde pour se créer le leur. Donc, on va créer un parcours sur mesure, un parcours immersif. Peu importe finalement la destination, on les accompagne avant, pendant et après. Et ensuite, on les aide à trouver leur voie pour qu'ils puissent commencer, continuer à construire leur vie professionnelle.
Finalement, vous n'accompagnez que les jeunes alors ?
On n'accompagne pas que les jeunes. jeunes. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est santé mentale, questions identitaires, les choix d'orientation, notre but vraiment, c'est d'aider la nouvelle génération à se sentir bien dans ses baskets. Et on accompagne aussi les Français de France qui souhaitent découvrir l'international. Moi, je commence à former les enfants des 6 ans jusqu'aux exécutifs, aux C-level, aux top managers.
Et comment former un enfant de 6 ans à l'expatriation?
Alors, à travers le jeu. Donc, je travaille beaucoup avec les neurosciences et l'éducation kinésiologique. Et donc, ça nous permet à travers le jeu de comprendre quelles sont les émotions quand on doit quitter nos copains, par exemple, et qu'on doit s'en recréer d'autres dans un pays qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là où j'ai créé le burger de l'identité. Donc, tout simplement, ça aide à forger son identité à travers les ingrédients que l'on souhaite mettre dans notre burger. Donc, déjà, ça parle beaucoup aux petits, mais aussi aux grands. Et tous ces ingrédients, en fait, vont répondre à des problématiques. Quels sont nos besoins? Quelles sont nos valeurs? Enfin, comment développer son intelligence culturelle? Comment développer son global mindset, qui est primordial quand on est un enfant qui habite dans un pays autre que celui du passeport des parents? Eh bien, pour moi, il était important de trouver un jeu ludique qui puisse leur faire comprendre qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que l'identité. Et surtout, c'est pas parce qu'on bouge qu'on perd quelque chose. En fait, on rajoute des ingrédients à notre burger.
Vous êtes combien pour faire ce travail?
J'ai une équipe derrière moi. Nous sommes 5 et dans notre équipe, on va avoir une conseillère en orientation. On a bien évidemment toute l'équipe derrière pédagogique, commerciale, marketing, réseaux sociaux. En revanche, pour les formations pures et dures interculturelles et notamment pour le jeu immersif que nous avons créé, je suis la seule à délivrer le jeu parce que ça fait 15 ans que je forme et que j'accompagne les familles expatriées à travers le monde.
J'imagine que c'est pas gratuit.
Non, c'est pas gratuit tout ça parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ce sont des formations au long cours parce que nous préparons les familles avant qu'elles partent, pendant et après. J'ai une fourchette de prix. La plupart du temps, les entreprises vont pouvoir offrir à leurs collaborateurs ces formations interculturelles, mais parfois elles ne le font pas. Donc le prix peut varier. Après, on module. On ne refuse personne dans le village. On peut nous contacter sur notre site qui est expatvillage.org, tout attaché, ou alors aussi sur Insta, expatvillage.
Florence Chaberdière, fondatrice d'Expat Village et auteure du livre aussi I'm a citizen of the world, je suis une citoyenne du monde. Elle répondait à Corinne Manjou. C'est la tradition, chaque dimanche matin sur RFI, on vous propose un petit avant-goût de l'émission L'Atelier des médias qui sera diffusée un petit peu plus tard dans la journée. Et cette semaine, Steven Jambeau reçoit Amélie Mouget, nouvelle directrice de la rédaction du site d'information indépendant reporter.net. Mais aussi Hervé Kampf qui l'a précédé. Ils nous expliquent tous les deux leur média de l'écologie.
Je dirais que c'est le meilleur endroit pour les personnes qui ne sont pas satisfaites d'être dans le déni, qui peut être confortable, hein, le fait de se voiler la face sur l'ampleur de la crise climatique et écologique que nous vivons, mais quelqu'un qui souhaite aussi préserver son moral et sa santé mentale. J'ai l'impression que Reporter essaye et réussit ce pari de tenir ensemble un décryptage lucide des enjeux, des mécanismes à l'œuvre, des mécanismes de destruction, parce que c'est souvent le cas de destruction de conditions de vie dignes sur Terre, et de nous donner à voir ce qui frémit, ce qui bouillonne du côté de celles et ceux qui cherchent des solutions, qui cherchent à vivre autrement, qui cherchent des alternatives à ce monde qui structurellement nous conduit vers une crise écologique et donc qui cherche à changer de structure.
Ce qu'a très bien dit Amélie, donc je vais le redire avec d'autres mots, mais être lucide, c'est-à-dire décortiquer, et décortiquer aussi avec une dimension d'analyse politique qui est la mise en cause des rapports de pouvoir et des rapports de justice sociale qui sont cruciaux pour comprendre la catastrophe écologique à l'heure actuelle. Et il n'y a pas en ce moment de choix plus nécessaire que de savoir ce qu'on va faire pour éviter l'aggravation de la catastrophe écologique et imaginer un autre monde qu'on va qualifier de post-productiviste, de post-capitaliste, et montrer qu'il y a un bouillonnement sous le radar des médias dominés par les milliardaires et les trumpistes. Eh bien, il y a un bouillonnement, une énergie de changer les choses parce que il est possible de faire autrement. Et d'ailleurs, plein d'auditrices et d'auditeurs de RFI en Afrique, ailleurs, en Europe, en Amérique latine, ont cette énergie.
Hervé Kampf et Amélie Mouget, que vous retrouvez plus en longueur tout à l'heure dans l'atelier des médias présenté par Steven Jambot. Ce sera à 11h10 en temps universel. Avant ça, dans une minute, le journal Afrique en français, sauf si vous nous écoutez en Swahili en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili. Et puis après ça, à partir de 5h en temps universel et jusqu'à 8h, vous avez rendez-vous avec RFI Matin et Julien Coquel-Rohem. J'en profite pour remercier Michael Verne qui était à la réalisation de cette demi-heure d'information. Merci aussi à Raphaël Rennes et Pierre Pinto qui eux étaient à la rédaction en chef. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFI.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.